Mémoire vive,
présentée par Eve Cheftel,
préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. On ne découvre jamais que ce qui a laissé une trace, et on le découvre quand la société ou le monde politique en éprouve le besoin. 1945, la découverte, c'est le titre de votre livre, Annette Viviorca, bonjour.
Bonjour.
Vous retracez pour nous le périple de deux correspondants de guerre, un journaliste et écrivain américain Meyer Levin et un photographe de l'agence France Presse, Eric Schwab. Avec eux, en vous lisant, on découvre ou redécouvre la libération des camps de l'Ouest, à savoir Ordruf, méconnu, aujourd'hui méconnu, Buchenwald et Dachau. Avec vous, on découvre ce qui a été longtemps recouvert par un grand récit consensuel, à savoir, on découvre les différences entre les camps et bien sûr entre les détenus. On découvre aussi les coulisses de l'info, on pourrait dire, de cet événement hyper médiatisé qu'a constitué la libération des camps de l'Ouest et le storytelling, pourrait-on dire aussi, qui s'est imposé à l'époque. Ma première question serait celle-là, c'est votre 15e livre, hein, si j'ai bien compté. Ben moi j'ai compté.
À la... collectif.
Oui, voilà. Enfin bon, comment ce livre s'inscrit dans votre œuvre d'historienne ?
Alors, c'est un livre, j'ai envie de dire, de la maturité, pour utiliser une litote, et de la liberté qu'on acquiert quand on a une grande maîtrise d'un sujet. Il s'inscrit aussi parce que, en fait, si je prends l'ensemble de mes livres, il y a toujours une sorte d'écho entre l'un et l'autre livre. Quand j'ai soutenu ma thèse, 91, j'ai découvert Meyer Levin, légèrement. Je l'ai découvert parce qu'un historien américain qui s'appelle Robert Abzug avait écrit le premier livre sur les Américains et l'ouverture et la découverte des camps, qu'il avait intitulé « Inside the Vicious Heart ». À l'époque, j'avais traduit cette expression qui est de Meyer Levin à l'intérieur du cœur malfaisant. Le cœur malfaisant, c'est l'expression qu'utilise Meyer Levin quand il arrive dans ce premier camp de l'Ouest, qui est Ordruf. Et puis là, j'ai bougé ma traduction parce que j'ai lu davantage de Meyer Levin, et notamment un conte racidique, et je l'ai traduit par le cœur maléfique. Parce que l'image est celle d'un vrai cœur, comme nous en avons chacun d'entre nous un, qui est en fait le cœur de Satan, qui est le mal, que l'auteur de... Enfin, dans le conte racidique, Satan a implanté ce cœur dans un charbonnier, le cœur saute, et celui qui représente le bien est tellement attristé de voir ce cœur tressauté qu'il le réintroduit dans la terre. Donc je rencontre Meyer Levin par le biais d'un collègue américain que je ne connais pas, au moment même où la femme de Meyer Levin publie un ouvrage qui s'intitule « Les maisons hantées de Meyer Levin » et qui raconte la longue histoire que Meyer Levin a eue avec le journal d'Anne Frank. Et au moment où les éditions Kalman-Lévy, sous la poussée des négationnistes qui prétendaient qu'Anne Frank n'avait jamais écrit son journal, certains prétendant même que c'était Meyer Levin qui avait publié le journal d'Anne Frank, publie une grosse édition avec toutes les versions du journal d'Anne Frank, la première version qu'Anne Frank écrit au jour le jour, la seconde version quand elle veut réécrire son journal pour le publier, et la troisième qui est ce qu'Otto Frank, le père d'Anne Frank, a fait avec les deux versions. Donc Meyer Levin ne m'avait jamais quitté, et quand j'ai commencé à réfléchir à un ouvrage, je me suis un peu plongé dans l'histoire de Meyer Levin. Il y avait une exposition Eric Schwab et du fils de Meyer Levin, Michael, aux Archives nationales en 2003, dont j'avais été la conseillère historique. Et j'ai repris contact avec Michael Levin, qui m'a indiqué qu'il y avait des centaines de dépêches d'agence de Meyer qui étaient à l'université de Boston. Et je suis donc allé à Boston grâce à une bourse de la Fondation.
Il travaillait pour une agence
Il a travaillé pour deux agences, dont une agence de presse juive et une qui n'était pas complètement juive, mais qui était un peu œcuménique. Et il a donc beaucoup écrit sur cette découverte des camps. Certains de ses articles sont parus, d'autres ne sont pas parus.
Et comment il rencontre Erich Schwab?
Alors, Erich Schwab, j'ai envie de dire par hasard. Mm-hmm. Les correspondants, pour être correspondant de guerre et pour aller sur le front, il faut un objet qui est extrêmement précieux, qui est une novation de la Seconde Guerre mondiale. Ça n'existait pas avant. C'est la Jeep. Et la Jeep, on n'a pas une Jeep pour soi tout seul. On est au minimum deux dans la Jeep. Les photographes, personne n'en veut dans les jeeps pendant la guerre, parce que c'est des emmerdeurs, pour parler poliment. Il faut arrêter la jeep, ils vont au contact du combat pour prendre leurs photos. Et comme dit Meir Levin, on ne peut pas prendre une photo pendant la guerre d'un camp de presse. On est obligé d'aller au contact. Donc, on ralentit l'avance et on met en danger le journaliste qui partage la jeep. Et Meir Levin dit de Schwab, et je trouve que c'est tout à fait juste, que c'est un photographe à la CAPA, c'est-à-dire un photographe qui s'approche le plus près possible. Schwab ne va pas mourir pendant cette guerre, CAPA non plus, mais CAPA meurt pendant la guerre d'Indochine, après avoir suivi, comme tous les correspondants de guerre, comme Meir Levin, la guerre d'Espagne, la Seconde Guerre mondiale, la création, la guerre d'indépendance d'Israël, ils sont tous là aussi. Puis, après, pour Capa, la guerre en trop pour lui, qui est la guerre d'Indochine. Donc, ils partagent tous les deux la Jeep et ils se lient d'amitié. Et cette amitié perdurera jusqu'à la mort de l'un et l'autre. Et elle perdurera aussi parce que Michael Levin, le fils de Meir Levin, a appris la photo auprès d'Eric Schwab. Teresca Torres dit « Leur Jeep, c'était comme une femme qu'ils auraient eue en commun. »
Elle s'appelait la Spirit
of Alpena.
Elle
s'appelait Spirit of Alpena.
C'est mieux que moi.
The Spirit of Alpena. Et c'est une Jeep donc, qui s'est promenée dans tous les camps et où les rescapés, les survivants ont inscrit des noms qu'ils ont aussi inscrits d'ailleurs sur un petit carnet. Il y a dans les archives à Boston le petit carnet où Meir Levin a inscrit des noms de rescapés. Et au bout du périple, le bout du périple, c'est la fin de la guerre, c'est Theresienstadt, c'est le 8-9 mai 1945. Quelqu'un reconnaîtra le nom de son mari sur la carrosserie de la Jeep et saura ainsi que son mari avait survécu. Donc on a une sorte d'avis de recherche mobile qui se promène comme ça de camp en camp.
Meir Levin, lui, il recherche ce qui reste des communautés juives d'Europe. Et Erich Schwab, lui, plus concrètement, recherche sa mère.
Alors Meir Levin, c'est un personnage extrêmement intéressant parce qu'il est né en 1905 à Chicago, dans une époque où les jeunes juifs n'avaient qu'une seule ambition, devenir de vrais Américains. Donc laisser derrière eux ce monde pouilleux de l'immigration. Et lui a toujours eu une sorte de manie juive, c'est une expression qu'il a. C'est-à-dire qu'alors que ses condisciples à l'école, à l'université rêvaient d'être totalement des Américains, lui était torturé par, dit-il, la honte et la peur d'être juif, qui l'ont accompagné toute sa vie. Et toute sa vie, il a écrit sur des thèmes juifs, alors que ce n'était absolument pas la mode. On n'était pas à l'époque de Philippe Roth ou de Bernard Malamud ou de tout ce qu'on a appelé, à tort ou à raison, l'école juive de New York. Il a cette obsession et quand il arrive à Paris, il est obsédé par la recherche des restes des communautés juives. Eric Schwab, lui, recherche sa mère. Sa mère s'est remariée après le divorce avec son père, avec un Allemand à rien, je mets des guillemets. Et c'est à la suite d'une séparation, soit par la mort, soit par le divorce, en février 1944, que sa mère a été déportée. Il ne sait pas où, mais elle est déportée à Theresienstadt. Et il retrouve sa mère, qu'ils évacuent tous les deux dans la jeep du camp. Ce qui est une sorte de happy end assez romantique. Alors moi, j'ai été frappée parce que je suis allée voir ce film exceptionnel de Christian Petzold qui s'appelle Phoenix. Et l'héroïne Nelly de Phoenix, c'est exactement la même histoire. Enfin, le début de l'histoire. Elle est mariée à un Allemand qui n'est pas juif, qui est arien. Et à la suite d'une histoire qui reste confuse, et c'est une des qualités du film, elle est déportée, alors que lui a divorcé d'elle. Donc, en 1944, on divorçait de femmes juives. Le mariage avec un arien protégeait, et on était déporté, comme l'a été la mère d'Eric Schwab ou Nelly dans le film de Petzold.
Alors, leur périple a lieu entre fin février et mai 45. Le premier camp qu'il découvre, c'est celui d'Ordruf, qui aujourd'hui finalement est assez peu connu, alors que vous dites que c'est à Ordruf véritablement que fut initiée la visite des camps. Après,
absolument.
Chacune des ouvertures ne fut que la réplique, de celle-là.
Absolument.
Alors vous décrivez d'ailleurs nuée de reporters, hommes politiques, visite des édiles et des populations locales qui à chaque fois est réquisitionnée pour enterrer les corps. Mais Ordruf a disparu assez vite des circuits du tourisme de l'horreur, dites-vous, au profit de Buchenwald notamment et de Dachau.
En utilisant des termes parfaitement anachronique, pas des termes de l'époque. On peut dire que Ordruf, l'ouverture d'Ordruf a été médiatisée et qu'il y a eu une véritable opération de com par les Américains. Puisque les Américains envoient à Ordruf les généraux Eisenhower, Patton et Bradley. Ils y arrivent le 12 avril, c'est-à-dire 8 jours, une semaine après l'ouverture de ce camp. On a laissé les cadavres pourrir sur le sol. Donc l'odeur est pestilentielle. Le mois d'avril 1945 a été, d'après tous les témoignages, un mois d'avril absolument superbe. Donc on a laissé pourrir les cadavres. On n'a même pas cherché à identifier les 29 corps en costume rayé. Donc on peut supposer qu'ils ont un numéro matricule cousu sur leur veste. On ne cherche pas à les identifier. Mais il y a cette énorme opération de médiatisation. Et si vous allez sur Internet, vous pouvez retrouver tous les films, tous les rushs qui ont été tournés à Ordruf.
Vous en donnez à chaque fois, ce qui est très bien d'ailleurs, en note de bas de page, le lien vers YouTube. Ou,
absolument, absolument.
On peut aller les consulter directement, ce qui est nouveau aussi.
Voilà, tout à fait nouveau.
Pour le lecteur, c'est une autre façon aussi.
Voilà, puisque j'avais écrit sur l'ouverture des camps,
d'avoir accès aux 90, archives directement.
Fin des années 80, à cette époque-là, pour avoir accès à un film, c'était... très long,
parcours
très
de
difficile,
ouais.
Ce parcours de combattant, et vous aviez la possibilité de le voir une fois, donc vous preniez des notes. C'est tout à fait différent que de regarder, installé chez soi, devant son ordinateur, tous ces rushs qui sont pratiquement tous sur le site du musée de l'Holocauste à Washington. Ça change totalement les conditions de la recherche.
Oui, les conditions de lecture aussi, hein. On peut s'y référer directement.
Absolument.
Donc, oui. C'est vraiment intéressant. Alors, ce que vous dites quand même sur Ordruf, ce qui est très important aussi, c'est que cette découverte, elle est fondatrice d'une image unifiée des camps nazis qui va rester jusqu'à très longtemps, à savoir qu'ils sont tous des lieux d'internement, des lieux de torture, où s'exerçait le sadisme des nazis, ce qui n'est pas faux, mais qui gomme complètement les différences en fait, entre les camps Sans parler même la différence entre les centres de mise à mort à l'est et les camps de concentration à l'ouest, mais y compris à l'ouest, différence entre les camps et entre les internés.
Oui.
Ça, c'est un point fort, oui, de votre livre.
Oui, je pense que ce point est très fortement appuyé par le cahier photo. On a eu la chance, grâce à la FMS, de pouvoir mettre un cahier photo, de pouvoir respecter la qualité des photos de Schwab. C'est un beau cahier photo. Et on a pris le parti, j'y on avec mon éditrice Séverine Nickel, on a pris le parti de ne mettre dans le cahier photo que les photos de Schwab, y compris quand des photos sont manquantes, comme par exemple les photos d'Ordruf, puisqu'on n'a pas retrouvé de photos d'Ordruf d'Eric Schwab. Et sur ces photos, et on le voit très nettement à la fois à Buchenwald et à Dachau, on voit qu'il y a des internés, des déportés français, parce que Schwab recherche les Français, hein, il travaille pour l'AFP, donc sa mission en quelque sorte, en dehors de sa mission intime de retrouver sa mère, c'est de photographier aussi les Français dans les camps. Donc on voit très bien qu'il y a des personnes à Buchenwald qui certes ont été déportées, et c'est toujours quelque chose de terrible, mais qu'ils ne sont pas ces squelettes vivants, ces cadavres vivants qui sont liés à la personne du déporté. Donc il y a une photo de groupe qui est la presse clandestine à Buchenwald, où on voit des journalistes, certains célèbres comme Maurice Nègre, qui a été le patron de l'AFP pendant des années après la guerre, ou comme Rémy Roure, qui a été un des grands journalistes du Monde. On voit aussi Julien Quin, qui est un homme exceptionnel, qui a été l'administrateur de la Bibliothèque nationale, qui a été au cabinet de Jean Zay dans les années de Front populaire. Tous ces gens ne sont pas au bord.
Ils sont bien portants, enfin, l'aspect extérieur en tout
ils
cas.
Ils sont relativement bien portants.
Ils sont
et
encore
à
en
Dachau,
chair.
Qui est un camp qui se caractérise par une forte présence catholique, qui est due à un accord qui a été signé par les nazis et le Vatican, qui a permis de faire ce qu'on appelle la baraque des prêtres, mais où, alors là c'est un hasard, ont été déportés beaucoup de chrétiens français, dont le plus célèbre d'entre eux, qui est Edmond Michelet. On voit une messe qui est dite et qui a photographié Schwab. Et on voit là aussi que les gens ne sont pas des squelettes vivants. Alors, je n'aime pas que l'on dise qu'il y a eu des privilégiés. Surtout qu'on le dise quand on est comme nous, en temps de paix, bien nourri, bien vêtu, personne n'a été privilégié dans la déportation. Mais il y a eu des statuts qui ont été différents, jusqu'au statut de VIP, qui a été celui de Léon Blum, et qui a été celui de ceux qui se sont retrouvés dans la forteresse d'Iter, qui ont passé 2 ans à Iter, et qui formaient une petite société très composite, puisqu'on avait Végan et Gamelin, Reynaud, Delaroque, le champion de tennis Borotra, que tout le monde a adoré. Il avait quand même été secrétaire d'État à jeunesse au sport du régime de Vichy. Le syndicaliste Léon Jouot. Donc tous ces gens qui vivent dans la forteresse d'Iter pendant 2 années. Borotra initiant tout le monde au deck tennis. Et ceux-là sont libérés par les Américains. Schwab. Et là, il photographie. Et Meyer Levin fait un article dont j'aime beaucoup le titre. « We liberated Wuzhou ». Nous avons libéré le Wuzhou.
Mais ce que vous dites, c'est que ces photos d'éminents français qui ont œuvré dans la résistance ou pas, elles ne figurent pas dans les ouvrages traitant des photographies des camps aujourd'hui.
Non, si on
ce qu'on a voulu retenir, c'est
si
que
on regarde
les...
la grande exposition qui s'est tenue à l'hôtel de Sully et qui a fait l'objet d'un ouvrage formidable dirigé par Clément Chéroux, où pour la première fois d'ailleurs réapparaît Schwab. Schwab, on n'a pas crédité ses photos, il ne les a jamais revendiquées. Il a toujours considéré qu'elles appartenaient à tout le monde. Donc la première opération, elle a été faite par Michael Levine, qui a passé des mois et des mois à repêcher les photos de Schwab dans les fonds de l'AFP. Elles ont été montrées dans l'exposition qui a été faite aux Archives nationales. Et ensuite, il y a une notice sur Schwab dans le Clément Chéroux. Mais quand vous regardez ces photos ne figurent pas dans les catalogues, parce que ça obligerait à penser la totalité du système nazi. Ça obligerait à les regarder dans ces coins, c'est-à-dire tous ces petits commandos de camps de concentration. ITER est statutairement un commando de Dachau. Les femmes qui font le ménage et qui font à manger pour ces VIP sont des femmes qui sont venues de Ravensbrück, sont des femmes déportées de Ravensbrück. Blum et Mandel passent 2 années dans une maison forestière à quelques centaines de mètres du camp de Brunwald. Certes, dans des conditions qui n'ont rien à voir avec celles de la majorité des internés, mais ce sont quand même des conditions de privation de liberté. Et chacun se rappelle quand même que Georges Mandel a été extrait de Brunwald, conduit en France, livré à la milice et assassiné par la milice dans la forêt de Fontainebleau. Donc ça veut dire que ces hommes, même s'ils ne sont pas astreints au travail forcé, même s'ils sont mieux nourris, même s'ils peuvent écrire, même s'ils peuvent écouter la radio, ces hommes sont quand même à la merci des nazis qui peuvent décider de les liquider pour telle ou telle raison.
En l'occurrence, eux, parce qu'ils sont juifs.
Eux, parce qu'ils sont juifs. Donc, on remarquera quand même que même chez les VIP...
Ils ont un traitement à part.
On a un traitement, dans le traitement à part. Et d'ailleurs, Blum, qui écrivait remarquablement bien et qui avait de l'humour, quand on lui dit que Daladier, qui est passé, et quelques autres qui sont passés par Brunwald, vont aller ailleurs, mais qu'il va avoir la compagnie de Blum, dit « Ah, ça fera un petit ghetto ». Et ça a fait effectivement un petit ghetto, tous les deux, plus la compagne de Blum, Jeannot, qui viendra le rejoindre et qui l'épouse à Brunwald.
Levine, pour revenir à lui et peut-être finir avec lui, dont la mission, comme vous le dites, était de faire prendre conscience au monde du sort spécifique qui avait été réservé aux Juifs, va devenir fou à la fin de sa vie.
Alors,
c'est
résumé brièvement. Tereska Torres va penser que le D-Book, que l'esprit d'Anne Frank est rentré dans Meyer Levin lors de son passage à Buchenwald. Et il va être obsédé par Anne Frank. Il écrit, il est en lien avec Otto Frank, il écrit une pièce. Et ce n'est pas sa pièce qui est choisie. Sa pièce est interdite et à la place, on choisit une pièce écrite par 2 auteurs plus en cours que Levine ne l'était, qui gomme le peu, parce qu'elle n'était pas si nombreuse que ça, mais le peu de référence à la judéité d'Anne Frank, qui en fait une personne universelle, qui termine la pièce de théâtre par « Malgré tout ça, j'ai confiance dans l'humanité au moment » où ils sont déportés. C'est pas comme ça que se termine le journal d'Anne Frank. Et au lieu de laisser tomber, il va s'acharner à faire procès, il va d'ailleurs en gagner un procès, et à vouloir absolument faire que sa pièce, qui restituait un caractère juif à Anne Frank, soit jouée. À l'heure actuelle, la majeure partie de ceux qui s'intéressent au journal d'Anne Frank donne raison à Meyer Levin.
Merci Annette Viviorca. Malheureusement, on n'a pas fait le tour de ce livre vraiment passionnant, 1945, La Découverte aux éditions du Seuil, publié avec le soutien de la Fondation et également de l'AFP, donc, puisque vous y trouverez de nombreuses photographies d'Éric Schwab. C'était Mémoire Vive. 2 adresses pour nous retrouver, www.radio-rcj.info, www.mémoirevive au pluriel.net. À dimanche prochain.